franceinter.fr. La revue presse de Camille Manière. Bonjour Camille.
Bonjour Patricia et bonjour à tous. Il faut toujours se méfier du 0,01% de doute, ce centième qui transforme un conte de Noël en espoir cruellement déçu. C'est en Argentine que ça se passe. On vous parlait vendredi de Maria Chicha Mariani, cette mamie de 92 ans qui n'en revenait pas d'avoir retrouvé sa petite fille après 39 ans de recherche. L'enfant avait été enlevé à sa famille par un policier quand la dictature avait tué sa mère et la vieille dame, elle, avait un incarné pendant toutes ces années le mouvement des grands-mères de la place de Mai. Cette fois, elle en était sûre à 99,9% test génétique à l'appui. C'était bien sa petite fille Clara, cette femme brune de 39 ans avec qui elle s'était fièrement faite prendre en photo. Le monde entier s'était ému de ses retrouvailles jusqu'à ce qu'hier, nous raconte le site lacroix.com, hier matin, deux autres tests officiels sont venus infirmer la belle histoire du moment et replonger la vieille dame dans la tristesse. Il faut se méfier des contes de Noël. Mais à chaque fois, on se laisse prendre. Difficile de ne pas se consoler en lisant dans Le Parisien aujourd'hui en France ce matin ce qui est arrivé à la famille Anke à Berlin. Le jour de Noël, des voisins sont venus leur apporter Miko, le chat noir et blanc qu'ils n'avaient pas revu depuis 7 ans. Miko a été identifié grâce à la puce électronique placée dans son oreille. Et cette fois, on espère que personne n'aura l'idée de faire un test ADN.
Pendant que la gauche française se déchire sur la déchéance de nationalité, le JDD nous raconte lui un enterrement à huis clos.
Celui de Sami Amimour, l'un des trois assaillants du Bataclan, le premier des terroristes du 13 novembre, à être inhumé sur la terre de France qu'il a vu naître. La cérémonie a eu lieu le 24 décembre après la fermeture au public, en toute discrétion, dans le carré musulman du cimetière intercommunal de La Courneuve. On n'est pas loin du terminus du bus RATP 148 que le jeune homme conduisait chaque jour avant de partir faire le djihad en Syrie. Le JDD note l'ironie du calendrier. Sami Amimour a été enterré le soir du réveillon chrétien de Noël. Il coïncidait pour la première fois depuis près de 5 siècles avec l'anniversaire de la naissance du prophète Mahomet.
L'année 2015 se termine et nos journaux ont tous l'œil dans le rétroviseur.
Une silhouette qui émerge dans le marasme de 2015, quitte même à le personnifier, c'est celle de Bernard Cazeneuve. Solennel, droit, cinglant, hyper exigeant, son style marque les esprits, lui qui a été en première ligne de 7 janvier en 13 novembre. Tu verras, le terrorisme, c'est le sujet central, l'avait averti Manuel Valls à son arrivée au ministère de l'Intérieur. Bernard Cazeneuve n'a pas dû être déçu. Dans le portrait qu'elle lui consacre de l'intérieur, Raphaël Baquet et Marilyn Baumard pour Le Monde racontent comment l'ex-maire de Cherbourg, d'un naturel plutôt discret, a su chausser l'armure de Beauvau. Il est même parvenu à s'imposer dans cette fonction que Nicolas Sarkozy se vantait en 2007 d'avoir tué, comme si tous ses successeurs à l'intérieur allaient être obligés de le copier. Cazeneuve, lui, reconnaît qu'il n'est pas Goldorak, mais il a su imposer sa patte. Il serait même humain, si si. Les journalistes du Monde racontent comment, quand un jeune policier et fils de policier a été grièvement blessé par un multirécidiviste fiché S, le ministre est allé lui rendre visite à l'hôpital une vingtaine de fois en toute discrétion. À le voir, on le croirait impassible, toujours égal et raide, mais certaines choses le touchent, disent les conseillers de Bernard Cazeneuve. Dernière en date, les critiques des ONG à Calais sur la façon dont la France traite les migrants et le refus de certaines familles de victimes du 13 novembre de participer à l'hommage national aux Invalides. Entre les lignes, ce que l'on lit, c'est le portrait d'un ministre hanté par ses responsabilités et la certitude que malgré tous les attentats déjoués qu'il nous annonce régulièrement, malgré le zèle et la stature, Bernard Cazeneuve aura à nouveau à endosser un jour ou l'autre la mort de citoyens français.
Pour soulager le poids des culpabilités, Le Parisien aujourd'hui en France propose une solution, c'est la confession à l'église.
Le pape François l'a dit, 2016 sera l'année du pardon et les confessionnaux français n'ont pas désempli, apprend-on, en cette période de Noël. Il paraît que la confesse est revenue à la mode chez les jeunes catholiques avec le succès des JMJ, les Journées Mondiales de la Jeunesse. On est sorti de l'approche formaliste et moralisatrice des curés d'antan et on livre ses péchés dans l'intimité d'une cabine ajourée pour évacuer ces culpabilités qui peuvent être morbides. Les péchés, justement, ils ont évolué avec leur temps, nous apprend Le Figaro. Excès de vitesse sur la route et pornographie sur Internet se sont imposés comme des incontournables du confessionnal. D'ailleurs, le Vatican le répète régulièrement depuis des années, il ne saurait y avoir de service de confession en ligne. C'est sacrément tentant, mais pas question d'en faire un sacrement. Pour son dernier numéro de 2015, l'Obs, l'hebdo, revient sur l'un des rares événements positifs en cette année, unanimement qualifié d'annus horribilis. C'est la signature, au mois de juillet, d'un accord historique sur le nucléaire iranien. À l'époque, on s'en souvient, on s'est beaucoup réjoui du retour de la République islamique dans le concert des nations, de son ouverture annoncée aux entreprises occidentales avec la levée de l'embargo économique. Et bien, 6 mois plus tard, les journalistes de l'Obs, donc Sarah Daniel et Sophie Fay, constatent que l'enthousiasme est pas mal retombé à Téhéran. Là-bas, les businessmen occidentaux sont toujours accueillis par d'immenses fresques anti-américaines, car les plus conservateurs du régime iranien autour de l'ayatollah Khamenei ont bien du mal à sortir de la rhétorique de dénonciation du grand Satan. Le veulent-ils vraiment d'ailleurs? Ce que montre le reportage de l'Obs, c'est que les gardiens de la révolution, les Pasdaran, sont avant tout de redoutables hommes d'affaires qui ont privatisé dans leurs fondations religieuses des pans entiers de l'économie iranienne, les banques, le bâtiment, les télécoms ou encore le pétrole bien sûr. Ils protègent jalousement leurs prébendes et cherchent toujours la formule magique qui leur permettra de conjuguer maintien de la dictature et libre-échange.
À lire dans M, le magazine du Monde, cette étonnante et très discrète séance de dégustation de vin mi-décembre à l'ambassade de Russie à Paris.
Pas n'importe quel vin, hein. Des nectars élevés sous le soleil de la Crimée et qui ont su déjouer les sanctions économiques en passant par la valise diplomatique. Car oui, depuis l'annexion de la péninsule de Crimée par les Russes aux dépens de l'Ukraine, les produits criméens sont interdits à la vente chez nous. Et la principale exportation de la région, c'est le vin qu'on y cultive depuis 3000 ans. Des crus très sucrés, les meilleurs vins liquoreux du monde, à en croire Michel Jack Chasseuil. C'est le plus grand collectionneur de vins français. Les bouteilles dégustées sous le manteau à Paris provenaient de la cave de Massandra sur les hauteurs de Yalta. Les Russes les ont volés, ces vins, comme ils ont fait main basse illégalement sur la Crimée dans son ensemble. Voilà ce qu'on pouvait lire à la mi-décembre sur les réseaux sociaux des mouvements de soutien à l'Ukraine. Un autre haut lieu de la vigne en zone d'influence russe, c'est Krikova en Moldavie, et c'est l'Express qui nous fait découvrir les trésors que recèlent ces caves. Le vin oublié d'Hermann Göring, l'âme damnée d'Adolf Hitler. L'ogre nazi avait pillé les meilleurs domaines européens dans les années 40, pendant la guerre bien sûr, pour se constituer une cave exceptionnelle. Une partie de cette cave a été découverte par des soldats soviétiques en 1945 dans l'une des résidences de Göring près de Berlin. Les découvreurs ont prélevé et bu leur commission bien sûr, mais le reste a été ramené à Moscou puis stocké donc à Krikova. Un peu perdu de vue en fait ce trésor inestimable, on le redécouvre depuis quelques années, comme on découvre d'ailleurs les vins de ce nouveau monde d'ex-URSS. Et puisque l'on est à 4 jours de la Saint-Sylvestre, eh bien sachez que Krikova en Moldavie donc produit une méthode champenoise brute qui gagnerait à être connue.
C'était la revue de presse de Camille Magnard.